est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
Des gens croient qu'à certains moments, les événements politiques revêtent un caractère fatal et suivent un cours irrésistible. Cette conception du déterminisme social est excessive. Elle méconnaît ce point essentiel. Les événements politiques et sociaux sont humains et par conséquent n'échappent pas au contrôle humain. Albert Camus, le 25 octobre 1939, dans le journal Alger Républicain. J'espère que vous allez bien. Bonjour. La semaine dernière, mine de rien, nous passions un cap ensemble, vous et moi, si, si, celui des 10 numéros. Cette semaine, le chiffre est moins rond, bah oui du coup, mais l'émission n'en est pas moins intéressante. Nous quittons la musique et nous quittons l'ambiance café pour un bureau du journal Le Monde, boulevard Bianchi, où mon invité m'a reçu, puisque mon invité, cette semaine, dirige le Monde des Livres. Mon invité a pourtant commencé sa carrière à France Culture, mon invité a l'habitude d'écrire des essais. Mon invité, c'est Jean Birnbaume. Il signe un livre absolument essentiel, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, aux éditions du Seuil. Rencontre. Bonjour Jean Birnbaume.
Bonjour.
Vous publiez Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, aux éditions du Seuil. Et ce silence religieux, c'est celui des hommes et des femmes politiques, du gouvernement d'abord, des autres ensuite, des journalistes et des intellectuels également, bref, de tous ceux qui ont pris la parole après les attentats, ceux de janvier 2015, ceux du 13 novembre, un silence à propos de la religion comme moteur et facteur de ces crimes atroces. L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme, point à la ligne, silence. Bien sûr, cette idée part d'une intention louable, vous l'écrivez, celle d'éviter tout amalgame entre les musulmans et les terroristes. Mais cette idée est fausse. Vous écrivez, pour lutter contre le djihadisme, plutôt que d'affirmer qu'il est étranger à l'islam, mieux vaut admettre qu'il constitue la manifestation la plus récente, la plus spectaculaire et la plus sanglante de la guerre interne qui déchire l'islam. L'islam, il est en guerre, Jean Birnbaume ?
Bah oui, et c'est pour ça que je cite tout un tas d'intellectuels, de musulmans, d'islamologues, de théologiens, qui eux savent très bien que ça a à voir avec l'islam, et qui eux se battent en permanence sur ce front interne dont vous venez de parler, dans cette espèce de guerre civile mondiale qui déchire effectivement l'islam de l'intérieur. Ils se battent tous sur ce front pour essayer de soustraire leur religion à tous les fanatiques qui voudraient en faire une sorte de grimace sanglante. Et donc, de ce point de vue, il y a tout un tas de gens qui travaillent là-dessus, qu'il faut écouter, qu'il faut soutenir et répéter à longueur de journée que tout ça n'a rien à voir avec l'islam, que les attentats n'ont rien à voir avec l'islam. C'est vraiment pas un service qu'on rend à ces intellectuels, à ces simples croyants musulmans qui eux savent très bien qu'il y a un vrai problème, qu'il se passe quelque chose. On le voit tous les jours, on est pris tous maintenant dans cette espèce de grande ruée, de grande mêlée interne à l'islam. Tous les jours, l'actualité est envahie de ce vocabulaire, des sunnites, des chiites, etc. Enfin, l'Iran, l'Arabie Saoudite, ça n'en finit plus. Il faut bien voir que c'est réel, que c'est pas rien. Et nous, notre tendance spontanée, c'est de considérer que comme c'est religieux, bah, c'est pas grand-chose. Ou alors, c'est forcément le voile d'autre chose, de quelque chose de plus réel, de social, de géopolitique, de politique, des choses qui existent. Évidemment, tous ces facteurs sont très importants, je ne les renie pas du tout, mais je pense que la religion en tant que telle peut aussi être un facteur qu'on doit pouvoir prendre en compte.
Alors justement, vous dites qu'il faut soutenir ceux qui parlent de ces choses-là, et dans votre livre, vous citez de nombreux islamologues, philosophes ou théologiens, qui soient morts ou vivants, que vous présentez comme les nouveaux penseurs de l'islam, pour reprendre le titre d'un livre de Rachid Benzin, paru en 2008. Ouais. Alors dans la liste, il y a Youssef Zedik, il y a Abdennour Bidar, il y a Anouche Ganjipour, et puis bien sûr, il y a Mohamed Harkoun, il y a Abdelwahad Medeb, qui écrivait en 2002 un livre au titre évocateur « La maladie de l'islam », et il écrivait ceci. « Au lieu de distinguer le bon islam du mauvais, il vaut mieux que l'islam retrouve le débat et la discussion, qu'il redécouvre la pluralité des opinions, que les brèches se multiplient. Ces nouveaux penseurs de l'islam, Ils sont pourtant différents, ils sont pas d'accord sur tout, et même sur des points importants, mais qu'est-ce qui les rassemble? Pourquoi vous parlez d'eux?
Mais je parle d'eux parce que, effectivement, moi-même, je suis terrorisé à l'idée de tomber dans ce fameux amalgame entre les simples croyants, les gens pour qui la spiritualité, la foi, l'islam sont une forme de pèlerinage intérieur, d'effort vers une sorte de quête de sagesse, etc. L'amalgame entre tout ça et puis la violence sanglante du djihadisme. Donc, bien sûr, je veux absolument éviter ça. Et en même temps, je ne veux pas du tout nier, je veux au contraire exhiber le fait que dans le djihadisme, il y a une énergie religieuse très forte. Et donc, pour ça, il faut s'appuyer sur des gens qui sont savants, qui sont érudits et qui sont sur la ligne de front dont je parlais tout à l'heure. Et donc, effectivement, vous avez raison d'insister là-dessus. Tous ces nouveaux penseurs de l'islam, comme les appelle Rachid Benzine, que je mobilise beaucoup, ils sont très différents, ils ont des points de désaccord, mais ce qui les rassemble, c'est qu'ils ont conscience qu'il y a une crise interne à l'islam très forte. Ils ne le nient pas, au contraire, ils pensent qu'il faut la prendre en charge, qu'il faut l'affronter. Je cite Rachid Benzine, je cite d'autres gens qui montrent par exemple comment l'université Al-Azhar, qui est quand même l'immense institution de référence du monde sunnite. Il y a 200 000 étudiants là-bas, du monde entier. On était allé chercher des gens la France. Les hautes autorités françaises étaient allées là-bas pour demander à ce qu'ils forment les imams français. Et quand on regarde de près, on voit que l'université Al-Azhar, qui se porte un peu garante comme ça de l'islam orthodoxe et qui a une puissance et un rayonnement énorme.
Et qui avait l'image d'un islam modéré.
Plutôt modéré, voilà, eh bien, a attendu la fin de l'année 2014 pour accepter les demandes qui lui étaient faites de condamner l'État islamique, Daesh, etc., et de les considérer comme des mécréants. Et pourquoi, en plus, sous quel argument, ils ont dit, brûler, comme ils l'ont fait, comme les militants de Daesh l'ont fait, un homme dans une cage, ça ne fait pas partie de l'arsenal pénal islamique. Donc on voit que ça va quand même très très loin, et des gens comme Rachid Benzine expliquent, sont pas très loin de dire, et même disent assez franchement, que l'islam violent et défiguré que prône l'État islamique n'est pas toujours très très éloigné de l'islam qui est enseigné dans des grands centres d'enseignement et de transmission ou comme Al-Azhar. Enfin bon, évidemment c'est complexe parce que Al-Azhar aussi est travaillé par mille contradictions et il faut mettre beaucoup de nuances, mais en tout cas il y a quelque chose de complètement naïf et donc de pas pertinent et donc de pas efficace aussi dans les enjeux actuels, à considérer que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam, que le djihadisme n'a rien à voir avec le djihad, et que l'État islamique, c'est une bande de paumés, débiles, ignares. Il y avait une perquisition chez les frères Kouachi et chez Amédi Coulibaly, donc les terroristes de janvier 2015 à Paris. Chez eux, on a retrouvé les mêmes livres. Et ça, c'est très intéressant, parce que même à cette échelle-là, alors que bon, là, c'est vraiment les troupes de base, quand même, on a retrouvé les mêmes livres, et c'est pas des livres de guide pratique du terrorisme, c'est pas le terrorisme pour les nuls et comment on fabrique une ceinture d'explosifs. C'est à chaque fois, c'est des recueils, des commentaires savants, de théologiens.
Il y a des préjugés dont il faut se débarrasser. Les nouveaux penseurs de l'islam, ils essayent de nous débarrasser de nos préjugés. Mais c'est difficile d'être un nouveau penseur de l'islam parce que l'islam le plus rigoriste, le salafisme le plus extrême, celui de Daesh, eh ben, il a bonne presse dans certaines hautes sphères du monde arabe. C'est ce que vous écrivez.
Oui. Finalement, il y a en permanence, à la fois dans cette mémoire de la gauche marxiste et dans la mémoire de la gauche postcoloniale, et même plus généralement dans la société et dans cette mémoire-là postcoloniale, il y a quand même cette idée que la religion, et notamment l'islam, est forcément un trait distinctif de l'opprimé, du rebelle et de l'opprimé. Et donc, on a du mal à voir que des formes de religion comme l'islam, et surtout comme l'islamisme et le djihadisme, peuvent être non pas des formes de soumission, mais plutôt des formes de domination et de violence. On a beaucoup de mal à voir ça.
Il y a les hautes sphères du monde arabe qui peuvent soutenir l'islam le plus rigoriste. Et puis chez nous, par paradoxe, certains intellectuels, vous l'écrivez de gauche, la plus radicale, certains pans de l'extrême gauche, font le jeu, sans le vouloir, de ces écoles-là, en traitant les nouveaux penseurs de l'islam, dont on n'arrête pas de parler depuis le début de cette interview, de caution pour le monde occidental qui opprime et qui méprise l'islam.
Oui, c'est un peu la thématique du bon nègre ou du beurre de service, enfin c'est tout ce vocabulaire comme ça qui fait que les gens qui finalement font un pas de côté ou qui sont dans la dissidence par rapport à leur propre camp ou au camp auquel on voudrait absolument
les
rattacher de force sont souvent comme ça traités de traîtres ou de collabeurs. Quelqu'un s'est fait traiter récemment de collabeur, un
membre très bon goût, effectivement,
très bon goût, un militant socialiste qui avait pris des positions qui n'avaient pas plu à certains groupes et qui l'ont traité de collabeur parce qu'il était à la fois socialiste et d'origine maghrébine, issue de l'immigration. Et c'est vrai que il y a quelque chose de très désagréable là-dedans, parce qu'on a l'impression que tous ces militants ou ces théologiens ou ces intellectuels musulmans qui essayent d'affronter la crise interne à leur tradition sont coincés entre, d'un côté, une sorte de condescendance postcoloniale qui fait qu'on les prend pas au sérieux d'un côté, et puis de l'autre côté des assignations identitaires violentes qui essaient toujours de les rattacher à un camp. Il y a du manichéisme, mais il y a aussi pour moi une sorte de sécheresse à l'égard du symbolique. Il y aurait une enquête à faire sur une autre enquête à faire pour s'interroger sur le moment précis où les intellectuels, notamment les intellectuels de gauche, ont cessé de prendre au sérieux non seulement la religion, mais aussi le symbolique. Quelqu'un comme Jean-Pierre Vernant, quand même, qui était un grand historien des religions, qui était un résistant aussi, bien sûr, mais qui a commencé sa carrière intellectuelle et politique dans le marxisme. Je crois qu'il est rentré en politique par, je ne sais plus comment ça s'appelait, l'Association des écrivains athées révolutionnaires, quelque chose comme ça. Bon, mais quelqu'un comme Jean-Pierre Vernant, pour lui, c'était évident que le symbolique, il n'y avait rien de plus humain, il n'y a rien de plus réel, et que les religions, c'était très important. Eh bien, il y a eu un moment donné, je ne sais pas quand, où finalement, les intellectuels, et en particulier les intellectuels de gauche, se sont mis à considérer que la religion, c'était pas grand-chose, ou c'était toujours un symptôme, un ornement, le prétexte d'autre chose. Et ça, ça fait partie un petit peu, non pas du manichéisme, mais en tout cas d'espèce de sécheresse dans le rapport au réel, et dans l'incapacité à compliquer les choses et à faire circuler les symboles, c'est-à-dire justement ce qui vaut au-delà de soi et ce qui tend vers autre chose que soi.
Avec nos lunettes d'Européens, d'Européennes, on ne sait plus ce que ça veut dire, la religion. On n'est plus à même de comprendre, notre logiciel, il ne peut plus comprendre.
C'est assez curieux. J'étais très frappé par le fait qu'un historien des guerres de religion comme Denis Crouzet, qui est quand même grande figure de la Sorbonne classique, qui devrait avoir très très peur d'être accusé d'anachronisme, parce que quand même dans le milieu universitaire et des historiens, c'est toujours une accusation qui pèse lourd. Denis Crouzet a ressenti le besoin ou la nécessité de prendre la plume pour écrire sur ce qui se passe en ce moment. Et ça m'intéresse parce que quelque part, c'est comme s'il disait, moi qui ai travaillé sur la violence, sur les corps, la violence physique incroyable au moment des guerres de religion, sur la façon dont effectivement une attente messianique peut mettre le feu aux poudres et ensuite donner cette violence épouvantable qu'il y avait à l'époque, etc. Bien moi, Denis Crouzet, de ce point de vue-là, j'ai quelque chose à dire sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous sommes très nombreux à avoir oublié qu'en Occident aussi, bien sûr, le théologico-politique, ce qu'on a appelé pendant très longtemps le théologico-politique, dominait les consciences, aussi bien pour envisager notre vie quotidienne que pour envisager le fondement du pouvoir, de l'autorité. C'était omniprésent, et tout se passe comme si aujourd'hui, après des siècles de sécularisation, on avait oublié non seulement ce qu'était la religion, mais surtout le fait que la religion peut être une puissance autonome. C'est vraiment mon point, moi, que la religion peut être une cause à part entière, et que donc ça peut peser, et que c'est pas forcément rien. Et c'est ce souvenir qui nous manque du fait que non seulement la religion comme spiritualité, ça existe, que ça a un impact sur le corps, sur le rapport à la vie, sur le partage du bien et du mal, sur les mots et les choses, mais aussi que la religion comme spiritualité politique, c'est-à-dire la religion en tant qu'elle est enflammée par la politique, eh bien, ça a très très longtemps pesé en Occident, et on fait aujourd'hui comme si ça n'avait plus d'importance ou plus de consistance.
Et dans ce phénomène, vous pointez du doigt le rôle de la gauche, qui n'est pas à même de comprendre tout ce que vous venez de nous dire, qui entretient ce silence religieux pour des raisons historiques, pour des raisons idéologiques, et vous écrivez qu'elle ait fustigé la religion, qu'elle ait été tentée de l'instrumentaliser, ou qu'elle ait fait comme si de rien n'était. La gauche a le plus souvent refusé de prendre le fait spirituel au sérieux. Et dans cette histoire de l'incompréhension de la gauche face au spirituel, face au symbolique, vous n'expliquez pas comment le socialisme utopique des années 1820 a dû céder le pas au socialisme scientifique, rationaliste, au marxisme finalement. Vous ne remontez pas au bouffe-curé de la Troisième République, au Dreyfusard, mais vous pointez du doigt la mobilisation anticolonialiste en Algérie comme point de départ. Pourquoi ce choix ?
Alors vous avez raison, de toute façon ce livre il n'est pas du tout exhaustif, c'est pas du tout une thèse d'état, je ne prétends pas du tout couvrir toutes les gauches, couvrir toutes les religions, couvrir
tout. Bien sûr, mais vous avez fait un choix.
J'ai fait un choix, je remonte quand même à Marx. Alors Marx, j'en parle, et j'en parle pour montrer, pour essayer de montrer en tout cas que la gauche, si elle relisait Marx, ne serait-ce que cela, déjà elle prendrait un peu plus au sérieux le religieux, parce que Marx lui-même, il y a un très beau livre de Derrida là-dessus, non seulement a pris très au sérieux la religion comme facteur autonome, comme nécessité, comme ça, presque logique, mais même il a pas cessé d'y revenir. C'est-à-dire que c'est Marx, dans les écoles de formation des socialistes, des marxistes, des communistes, pendant des générations, on apprenait que Marx était d'abord le jeune hegélien qui est compagnon de route de Feuerbach, et puis qui donc, Feuerbach, c'est la réflexion sur le christianisme face à Hegel, et enfin, c'est ce jeu entre Feuerbach, Hegel, Marx, etc., et ensuite contre Feuerbach, et la façon de toujours remettre sur ses pieds, enfin, tout ce vocabulaire, la chambre obscure, donc la question de la religion est au point de départ de l'itinéraire politique et intellectuel de Marx. Il n'a pas cessé d'y revenir, et quand on regarde de près ses textes, on voit que c'est très très éloigné de ce qu'on en a retenu le plus souvent à gauche, c'est-à-dire cette formule de l'opium du peuple ou des choses comme ça.
Vous consacrez un chapitre à cet héritage qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas assez bien pris en compte, mais le premier chapitre qui explique le silence religieux, c'est sur l'Algérie.
Tout à fait, mais parce que pour moi, je pense que c'est un moment très très important. D'abord parce que pour moi, familialement, pour mes parents, etc., enfin, j'ai été élevé un peu dans la mémoire de cette guerre-là, et puis aussi parce que la génération à la fois intellectuelle, politique, médiatique, etc., qui continue de peser, qui a tellement pesé en France, c'est la génération 68, pour le meilleur et pour le pire, cette génération est largement une génération que j'appelle FLN, c'est-à-dire une génération qui est entrée en politique, qui est née à la conscience politique, qui est née à la révolte politique, même quand elle n'a pas milité activement, mais quand elle a pris conscience politiquement des choses, c'était souvent dans l'indignation à l'égard de la torture en Algérie, dans le soutien au combat du FLN pour l'indépendance de l'Algérie. Et ce que j'essaye de montrer, ou juste de rappeler, parce que finalement on l'a oublié, ou même peu de gens le savent, c'est que cette génération-là, donc, qui a soutenu en partie, parce que tout le monde n'a pas soutenu le combat pour l'indépendance de l'Algérie, mais ceux qui l'ont fait n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir qu'au cœur de ce combat nationaliste algérien, bien la question de l'islam était centrale. Elle était omniprésente, si vous regardez les livres de près, si vous écoutez les témoignages, vous voyez, et c'est des témoignages que je trouve assez bouleversants, de ceux qu'on a appelés les porteurs de valises, de ceux qu'on a appelés aussi les pieds rouges, c'est-à-dire ceux qui sont restés en Algérie après l'indépendance pour essayer d'y construire ce qu'ils pensaient être ou devoir être le socialisme, parce qu'à l'époque, pour eux, c'était pas juste l'indépendance de l'Algérie qui était en question, c'était, il fallait que l'Algérie allait être l'avant-garde d'une révolution mondiale qui viendrait du tiers-monde, etc. Donc c'était des enjeux énormes, et ils n'ont pas voulu voir, ou ils n'ont pas vu que la question de l'islam était centrale. Ils ont compris très tardivement, ne serait-ce que ça, que le titre du journal du FLN, El Moudjahid, ne voulait pas dire le combattant, mais le combattant de la foi. Il y a tout un tas de choses que je raconte très précises pour montrer qu'ils ont dû avaler un nombre de couleuvres incalculables, qu'ils ont fait preuve d'une abnégation et d'un dévouement incroyable. Ils ont parfois été touchés dans leur corps, leurs enfants, leurs parents parfois ont été torturés par le nouveau régime. Et quand ils sont rentrés en France et qu'ils ont vu les choses, enfin qu'ils avaient vu les choses, ils se sont encore tus, ils ont encore rien dit, par peur de faire le jeu de l'extrême droite et de déshonorer la cause de l'anticolonialisme. Et donc ce moment-là est un moment fondateur, en fait, dont nous ne finissons pas finalement de payer le prix, ou plutôt le non-dit.
Alors, ce silence au fil des chapitres, après ce moment fondateur qu'on évoquait, vous brossez d'autres étapes dans l'histoire de cette incompréhension, finalement, entre gauche et religion. Alors on y trouve les leçons de la révolution iranienne, la gestion de l'héritage marxiste, on en parlait, les errances, voire les erreurs de l'extrême-gauche actuelle, on en a dit aussi quelques mots, et on aboutit donc à la conclusion d'une sous-estimation patente de la force du religieux par la gauche, de sa dimension politique, de ses prétentions universalistes, aussi dans un monde qui est passé du bipolarisme au multipolarisme, et peut-être aujourd'hui, à en croire certains géopoliticiens, au zéro polarisme. Est-ce qu'il n'y a pas, dans votre livre, une sorte de mea culpa, après tout ça, Jean Birnbaum, vous, le journaliste plutôt de gauche? C'est en tous les cas ce qu'avait dit, à ce micro, il y a un mois, le consultant de France 2, Pierre Servent, qui venait nous parler de son livre, L'extension du domaine de la guerre. Il a raison, Pierre Servent, c'est une forme de mea culpa, votre livre?
Non, vraiment pas. Vraiment pas, parce que je pense qu'il n'y a pas de culpabilité. D'ailleurs, moi, je cherche... pas du tout à jeter des anathèmes ou à culpabiliser quiconque. Et finalement, je ne dis rien dans ce livre qui, à mon sens, qui contredit ce que j'ai pu écrire dans le passé. Rien du tout. Mon précédent livre était un bouquin sur le basculement ou le glissement déjà d'une forme d'extrême gauche, les anciens Mao, de la scène politique vers la scène religieuse. Et finalement, je me suis toujours intéressé à ces questions-là. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est quand même, oui, une sorte de... Moi, j'aime beaucoup Claude Lefort, je le cite, je pense qu'il est... Ce philosophe n'est pas assez lu, il est déjà trop oublié. C'est quand même quelqu'un qui a toujours eu ce positionnement antitotalitaire, c'est quelqu'un qui avait connu l'espérance révolutionnaire et qui en même temps a été parmi les premiers en France à soutenir les dissidents soviétiques, à montrer l'horreur que pouvait représenter le stalinisme. Je pense qu'il faut être dans ce petit pas de côté. Je cite aussi Bernanos, qui à sa manière a fait aussi ce pas de côté, ce geste de dissidence à l'intérieur de son propre camp, qui était le camp là pour le coup conservateur et royaliste et maurassien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de culpabiliser ou de faire des mea culpa, c'est de faire bouger les lignes et de faire d'exhiber effectivement des non-dits, des refoulements qui nous empêchent de voir ou de comprendre les choses. Chacun a ses évolutions, etc. Et ce type de bouquin, de toute façon, ne peut que provoquer des lectures compliquées, des chassés croisés, des critiques à front renversé, parce que il s'agit d'exhiber un non-dit qui est effectivement le non-dit d'une famille politique dont je me revendique explicitement. Il n'y a aucun problème là-dedans.
C'est dit, j'enverrai le lien de cette émission à Pierre Servant. Je me suis posé une question, moi, en refermant votre livre, en terminant votre conclusion intitulée « Renouer avec la pensée critique ». On est d'accord que votre livre, il parle du silence religieux, donc de notre incompréhension fondamentale à prendre en compte cette force politique mobilisatrice qu'est la religion. Qu'il parle beaucoup du rapport entre gauche et religion, ce livre. Et je me suis demandé finalement pourquoi vous n'aviez parlé que de l'islam. Je m'explique. Pourquoi n'avez-vous pas aussi voulu parler de la façon dont l'hindouisme nourrit aujourd'hui l'ultranationalisme indien ? Pourquoi vous n'avez pas voulu parler du rapprochement entre Vladimir Poutine et l'Église orthodoxe ? Pourquoi vous n'avez pas voulu parler de ce pape si populaire, si politique, qui a des actes forts à l'ONU dans ses discours, dans le rapprochement entre Cuba et les États-Unis ? Plus largement, est-ce qu'en ne voulant vous concentrer que sur l'islam, vous ne tombez pas dans l'amalgame que vous avez pourtant souligné.
Oui, non, c'est une question intéressante et importante. Si vous voulez, je pense que bon, la question quand même de l'hindouisme se pose assez peu à la gauche française. Aujourd'hui, je pense que la question du rapprochement entre Poutine et les orthodoxes n'est pas non plus un enjeu majeur pour la gauche française en ce moment.
Et pour le monde géopolitique plus.
Pour le monde géopolitique plus, mais moi, ce livre est un livre d'ailleurs beaucoup sur la gauche française, hein, puisque je précise que c'est la gauche française en particulier qui s'est construite dans un fantasme d'éradication du religieux. Ce qui rend le plus manifeste aujourd'hui l'aveuglement ou l'incapacité de la gauche à prendre au sérieux le religieux, c'est quand même le face-à-face avec l'islam. C'est ça qui est intéressant aussi. Je cite ce marxiste libanais qui s'appelle Gilbert Achkar, qui pour moi est très très passionnant, parce que c'est quelqu'un qui a suivi toutes les luttes justement de la gauche internationaliste et révolutionnaire depuis, par exemple, l'Algérie bien sûr, mais aussi la révolution iranienne, et jusqu'à aujourd'hui, qui a fini par conclure quand même qu'il fallait quand même constater, quand on était de gauche, que partout où l'islam politique a triomphé, la gauche en fait est en sang. Est au fond du trou et est exterminé en fait. Donc à un moment donné, des gens comme Gilbert Achkar se sont dit bon, mais il doit se passer quelque chose de spécifique. Et là, on revient à cette question de la crise interne à l'islam. Et Gilbert Achkar, c'est très émouvant parce que c'est quand même un marxiste pur et dur, dit ah, mais il faudrait peut-être qu'on retourne au texte, qu'on comprenne pourquoi l'intégrisme prolifère tellement en islam plus qu'ailleurs, etc. Donc il commence à réfléchir, il dit mais il nous faudrait une sorte de sociologie comparative des religions à nous marxistes. Donc c'est très intéressant. On voit un marxiste pur et dur qui revient d'une époque en 70 où son parti, son organisation, son international révolutionnaire soutenait les ayatollahs en disant on sera toujours contre les impérialistes, contre l'État bourgeois, avec tous ceux qui luttent contre eux, et donc notamment avec ce qu'ils appelaient les imams, enfin ils ont appelé ça l'imam's line, hein, la ligne des imams, enfin ils la soutenaient. Et puis des années plus tard, ils disent bon, bah, en fait, quand même, faut qu'on fasse un peu gaffe parce que avec l'islam politique, ça a l'air plus compliqué que prévu. Et donc, je pense que quand même, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose d'un peu spécifique. Aujourd'hui à l'intérieur du monde musulman, moi je pense que évidemment, et d'ailleurs c'est dans les deux sens, même dans le regard qu'on pose sur le monde musulman, parce que par exemple si on prend la question du fanatisme juif qui évidemment existe aussi, vous avez parlé de l'hindouisme, vous avez parlé du judaïsme, mais par exemple la gauche israélienne, demandez à quelqu'un comme Zev Sternel, grand historien du fascisme français, militant de la gauche israélienne, souvent très dur dans ses prises de position, etc. Et si vous lui dites, posez-lui la question, lui et à ses copains, demandez-leur, mais d'après vous, les militants là qui ont mis le feu à un foyer palestinien et qui ont brûlé un bébé et ses parents en mettant le feu à ce foyer, vous pensez qu'ils n'ont rien à voir avec le judaïsme ? Mais ils vont tous vous dire, et d'ailleurs même Netanyahou a dit ce sont des fanatiques juifs. Bon, personne n'a dit ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Ce sont des gens qui défigurent et qui pervertissent ou qui, disons, produisent. Ce sont des gens qui sont des avatars meurtriers d'une religion, là, qui s'appelle le judaïsme. Eh bien, il y a des gens comme ça dans toutes les religions, évidemment. Il faut s'interroger sur ce qui se passe dans chaque religion de spécifique. Et les intellectuels musulmans, les théologiens musulmans, eux, aujourd'hui, eh bien, sont tout à fait conscients qu'il se passe quelque chose de particulier en islam, il y a cette crise mondiale de l'islam qui prend des proportions gigantesques et face à laquelle, je pense, il faut savoir ouvrir les yeux et poser des mots.
Deux questions pour terminer. Leur formulation est simple, leur réponse peut-être moins. Pour reprendre le titre de cette émission, qu'est-ce qui est absolument essentiel quand on fait du journalisme ?
C'est de veiller à avoir tout le monde contre soi, en fait. Je pense que c'est ça qui est bien. Je pense qu'il faut, pour moi, je dirais ça de façon très caricaturale, mais je pense qu'un bon papier, par exemple, un bon texte, c'est le texte qui va faire que les fous de tous bords ou les extrémistes de tous bords ou tous les gens qui supportent pas le pluralisme ou la contradiction ou la nuance sur le sujet que vous êtes en train de traiter vont dire que vous faites le jeu des autres.
Et dans la vie, Jean Birnbaum, qu'est-ce qui est absolument essentiel ?
Bah dans la vie, qu'est-ce qui est essentiel ? Et ben c'est d'aimer la vie, justement, et c'est en rapport avec cette question du religieux, d'ailleurs, au sens où, bien au-delà de la question du religieux, moi, ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est le rapport au symbolique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque moment de la vie, les moments importants, la naissance d'un enfant, la publication d'un livre, le mariage, la rencontre d'une personne, etc. Dans chacun de ces moments, il faut pouvoir poser des mots, il faut pouvoir marquer le coup, il faut pouvoir transmettre quelque chose, avoir un rapport à la transmission, à l'au-delà de soi. Et ce rapport-là, il n'est pas du tout toujours religieux, évidemment, c'est pas du tout la question, mais il concerne quelque chose dont le religieux est une forme très forte, c'est-à-dire effectivement le symbolique. Et je pense que dans tous les domaines de la vie, on peut très bien voir qui a ou non un rapport à la question du symbolique, qui fait circuler le symbolique, qui met des mots sur les choses, qui comprend ce qui y vaut au-delà de soi. Vous savez, par exemple, pour prendre la question du religieux, là je retombe sur des choses très prosaïques, mais il y avait eu ce débat sur le voile, et des gens disaient, y compris d'ailleurs à la gauche, à l'extrême gauche, disaient, mais quel est le problème avec le voile ? Si le string ne vous gêne pas, pourquoi le voile vous gênerait ? Donc les gens confondent une culotte affriolante avec un vêtement à la signification religieuse ou spirituelle ou sacrée, etc. Et donc là, on est dans une crise du symbolique, les gens ne voient pas la différence. Si on ne voit pas ces différences-là, en fait, je pense que ça concerne bien d'autres domaines de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, on a une espèce de sécheresse et on ne voit pas ce qui fait l'humanité des hommes, c'est-à-dire effectivement le rapport d'abord à des choses qui valent au-delà de nous et d'elles-mêmes, c'est-à-dire effectivement le rapport au symbolique. C'est pour moi, c'est ça l'absolument essentiel.
Merci.
Merci à vous.
Tous mes remerciements à Isabelle Creuseau des éditions du Seuil qui a permis que cette interview puisse avoir lieu. Tous mes remerciements à vous également, chères auditrices, chers auditeurs, pour votre écoute. La semaine prochaine, nous allons parler d'hommes féministes, de parodies de pubs pour parfums, d'insultes sexy cool ou encore d'un nouveau panthéon sur Tumblr en vert et violet et tout au féminin. Bref, la semaine prochaine, je vous propose de rencontrer le collectif Georgette Sand. Vous avez hâte ? Je vous comprends. À la semaine prochaine, donc. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.